France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
François, je vous invite à partager mon sandwich. J'ai fait le calcul. L'an dernier, les déjeuners d'affaires m'ont pris exactement 600 heures, presque un mois de ma vie. Maintenant, c'est fini, je déjeune d'un sandwich.
2,7 milliards de sandwichs sont consommés chaque année en France. Loin devant, les burgers et les pizzas.
Le jambon beurre, c'est plus, quand on part en voyage, je dirais, quelque chose sur le pouce. Et là, j'avais envie de quelque chose de plus élaboré.
J'ai pas besoin d'un traiteur pour me proposer des sandwichs chef d'orchestre. Pour un cocktail de mariage, c'est d'un ordinaire.
Oui, on est au pays du jambon beurre, mais on peut faire tout un tas de choses assez amusantes dedans. Le pari, c'est comment faire un bon plat cuisiné entre deux tranches de pain.
Mais dis donc, on est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
Eh bien si, justement, on est venu pour beurrer les sandwichs. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster du jambon et du beurre dans un pain baguette. Ça donne le jambon beurre, le sandwich préféré des Français. Mais attention, ce jambon beurre n'a qu'à bien se tenir, car une nouvelle génération de restaurants s'inspire des influences du monde entier, met le paquet sur le pain et les garnitures, et il réinvente ce fameux sandwich, lequel devient, à Paris et en région, on va le voir, une véritable cuisine entre deux tranches de pain, une gastronomie nomade, surprenante et accessible. D'où vient ce succès? Quelles sont les nouvelles tendances? Petite sociologie du sandwich, avec un expert des nourritures urbaines, grand amateur de street food, Irman Abdelhakim, bonjour!
Bonjour!
Comment ça va, Irman?
Très très bien.
Vous proclamé, autoproclamé, sandwich connaisseur sur votre compte Instagram, qui est d'ailleurs bourré d'excellents sandwichs. Votre vie est pas facile, hein. Vous mangez beaucoup de sandwichs et de street food, et vous pourriez même fonder, avec vos connaissances, un observatoire du sandwich, parce que vous connaissez très bien le secteur du snacking, avec ses nouvelles tendances, ses bonnes adresses. Vous êtes un peu notre homme sandwich ce matin. Vous allez nous révéler quelques-uns de vos sandwichs préférés, avec les très très bonnes adresses qu'on peut fréquenter aussi, hein.
Absolument. C'est vrai que j'ai une grosse passion pour les sandwichs, et que c'est quelque chose que je mange partout dans le monde en ce moment.
Et oui, partout dans le monde en plus. Vous allez éclairer cette émission de vos lumières, cher Irman. On va aussi cuisiner le sandwich avec l'une des créatrices de sandwich les plus inspirées du moment, Clara Vucher. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez cofondé Midi 37, une sandwicherie pleine de bonnes idées et de sentiments dans le centre de Toulouse.
Oui.
Et vous avez signé ce formidable petit bouquin, La vie, oh là là, La mie prodigieuse, 50 sandwichs à savourer, un bouquin très inspiré chez Ulmer, et vous avez inventé, rien que pour nous, deux nouvelles recettes de sandwichs spécialement pour cette émission. On n'en dit pas tellement plus, mais on peut dire que on peut se passer de chair animale et miser sur les garnitures végétales pour faire des sandwichs très inspirés, c'est ça, Clara ?
Absolument, moi je suis partisane de mettre beaucoup de légumes dans les sandwichs et d'inverser les ratios animal-végétal, ou même d'enlever carrément l'animal.
Et on va voir
pour vraiment mettre en valeur les produits plus frais.
Attention, c'est une émission qui va se faire la bouche pleine. Vous avez des questions, des recettes ou de super adresses de sandwich à nous faire partager, contactez-nous sur notre mail onvadéguster@radiofrance.com ou sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Et puis il y a aussi des chroniques, évidemment, avec Justine Knapp et Alessandra Pierini. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alessandra, bonjour. Au menu.
Au menu, panino ou panini, on verra bien ce qu'on va choisir.
Singulier ou pluriel, on va faire un tour du côté de l'Italie, évidemment, Justine.
Et certains domaines ne font pas que du vin, et on y trouve aussi de quoi se mettre sous la dent.
Voilà, de quoi se mettre sous la dent, et aussi avec des vins qui vont magnifiquement accompagner nos créations aujourd'hui. Pour retrouver tous les contenus dont on va déguster, eh bien c'est franceinter.fr, à la page « On va déguster ».
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant notre sandwich party, une petite dégustation surprise. Attention les amis, je vais vous réveiller les palais avec un produit pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Évidemment, ça se passe à l'aveugle. Vous avez un petit gobelet, trempouillé, la cuillère en bois. Allez-y, tout doux. Ah, ça commence à chauffer.
Waouh. C'est bien, ça réveille.
Ça dépote. Hein.
Bon, est-ce que vous avez deviné l'identité de l'ingrédient principal de ces préparations?
C'est du piment.
Le piment.
Ah,
piment.
C'est ça, du
c'est
piment.
Bien fort.
Alessandra Pierini, qu'en pensez-vous?
Donc, au nez, tout de suite, on sent ça pique. Ça pique. Ça me fait penser à une sauce barbecue avec du vinaigre, des poivrons dedans.
Parce qu'il y a évidemment une note fumée.
Une note fumée, hein,
ce qui vous fait penser à la sauce barbecue.
Sauce barbecue, oui. Oui.
Absolument.
Fumée, avec du paprika fumé, le petit.
Alors attention, je tiens à préciser que vous n'avez pas les mêmes préparations.
Les mêmes.
Vous avez chacun quelques échantillons d'une grande gamme de sauces. Mm-hmm. Il y a du côté de Alessandra des notes fumées, en effet.
Poivron, donc peut-être aussi, à part le piment, il doit y avoir, enfin, il y a pas mal de vinaigre.
Oui, vinaigre.
Vinaigre.
Bien joué.
Vinaigre, c'est très vinaigré.
Épices. Ça se rapproche effectivement d'une sauce barbecue. Vous avez vu juste. Irman.
Je la trouve très bonne déjà.
Est-ce que ça chauffe?
Ça chauffe.
Vous avez l'habitude du piment, Irman.
J'ai l'habitude de manger épicé, mais là quand même, ça envoie pas mal.
Ah.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous diriez?
Bah, je retrouve un peu quelque chose qui se rapproche d'une confiture compotée, mais
ouais,
avec.
Bien vu.
Mais très piquant.
Il y a effectivement quelque chose d'une confiture, parce qu'il y a, figurez-vous, de la mangue.
Exactement.
Du vinaigre de cidre, des piments charapitas, du citron vert, du sel, des herbes. Clara?
Moi, je la goûterais bien une deuxième fois, mais c'est vrai qu'elle en voit quand même déjà comme ça.
Et pourtant, attendez, je tiens à vous dire quand même,
c'est
Clara,
pas la plus forte.
Je vous ai soigné, vous avez la plus légère.
Ah, ouf, c'est gentil.
C'est évidemment Irman qui a été le mieux servi en termes de volts. Mais ça va. Hein. Non, non, il rougit même pas, tout va bien. Par contre, Clara, j'ai été très soft avec vous.
Elle pique un peu quand même, j'avoue que je suis un peu sensible. Mais moi, j'ai pas de côté fumé dans la mienne, du coup, elle est verte.
Non. Oui.
Je la trouve un peu sucrée, donc je pense qu'il y a quand même une petite dose de sucre ou de vinaigre un peu doux.
Elle est piquelisée, il y a donc un peu de sucre.
Et je sais pas, j'ai un côté un peu poivron vert, tomate verte, mais c'est peut-être la couleur qui me...
Citron vert aussi, herbe, absolument, il y a une note herbacée, c'est des jalapenos au citron vert, à l'ail, aux oignons, avec du sel, quelques herbes et des épices. Jalapeno, mais pour un profil pimenté finalement assez raisonnable, et Justine qui est carrément rouge. Non, ça va. J'allais dire comme notre décor de France Inter.
Disons que moi j'ai aussi, je retrouve le poivron un petit peu confit, cuit longtemps au four, bien concentré.
Bien vu,
la
poivron
note fumé avec, donc je me dis c'est peut-être du paprika fumé, mais ça c'est le poivron du coup.
Poivron fumé, mais on n'est pas loin.
Et je trouve aussi que le piment a beaucoup de goût. L'ingrédient lui-même, quoi. Je trouve que c'est très parfumé, très fruité, très agréable.
Piment ancho, et ça, c'est certainement la valeur d'un piment qui est cultivé en France, puisque ces sauces, c'est l'histoire de Ferdinand, Soliman et Théo, trois copains qui se sont associés, ils aiment beaucoup les jeux de mots, hein, associés à U et non O, puisqu'ils concoctent ces sauces pimentées. Alors, au-delà du branding, je vous invite d'ailleurs à soulever le post-it, parce que vous allez voir qu'ils sont dans des emballages, les doigts dans la prise, avec un graphisme assez déjanté et des slogans du genre « Laissez-vous posséder par l'euphorie de la chauffe ». Voilà, la démarche est très sérieuse au-delà de ça, avec des recettes et des matières premières dignement sourcées. Une grande partie des piments sont bio, figurez-vous, et proviennent de la ferme de L'Envol, dans l'Essonne, en région parisienne, mais aussi d'une ferme en Bretagne, tout est bio. Seules les variétés rares de piments sont importées du Pérou et du Mexique, et c'est dans le labo à Saint-Ouen-l'Aumône, dans le Val-d'Oise, que les recettes sont créées et réalisées. Vous nous donnez le nom de cette... c'est Molo Molo ?
Alors, le mien, c'est le chapotle, bien sûr, avec un chat, et c'est Molo Molo.
Ça, c'est la marque
avec,
de ces
ça,
sauces.
C'est la marque, donc il y a un 3, donc j'imagine que c'est la force de la sauce.
Absolument, ça va de 2 à 5, et effectivement, de 2 à 6, non, de 2 à 8 carrément. Ça monte, ouais. Ça monte quand même pas mal dans l'échelle de Scoville, qui mesure la force des piments d'ailleurs, Herman.
Et moi, j'ai eu la chance d'avoir l'as chicharapitas. Et j'ai eu un niveau 5, qui est plutôt pas mal.
Oui, qui est plutôt pas mal. Je trouve que vous en sortez très bien, parce que vous êtes allé à gros coups de cuillère. Franchement, ça se passe bien. Et pour se procurer ces sauces pimentées très rock'n'roll, eh ben, il y a un site marchand et toute une liste de points de vente à retrouver sur franceinter.fr, à la page On va déguster. C'est vrai que les sauces pimentées, et notamment dans la street food, Irman, sont de plus en plus à la mode. Hein. On a envie, et les jeunes notamment, de manger relevé finalement.
Absolument, je pense que ça apporte quand même beaucoup de goût et ça raconte aussi une histoire dans les sandwichs en fonction de la provenance des piments. Et là, on vient de le voir avec cette variété-là. Chaque piment un peu a son histoire et ça contribue un peu au storytelling qu'on a derrière, parce que les sandwichs aujourd'hui, on développe quand même plus des marques et on a envie d'avoir des choses assez précises et on a envie aussi de pouvoir voyager tout en restant dans son quartier.
Absolument. Et la bonne nouvelle, c'est que de nombreux maraîchers français se sont lancés dans la production de piments et ça, c'est... C'est vraiment, pour le sourcing, un détail qui compte. Derrière la console pour mitonner cette émission en direct, Laurent Thomas, Adèle Caglar, Fabrice Rivaud, on croque et on cuisine les sandwichs après Les Garçons. Nouveau titre de l'Escope choisi par Djoubaka sur notre playlist. Bon dimanche à toutes et tous sur France Inter, évidemment.
est suffocant, parfois il se lève tôt. Il respire le sirocco. Comme des rois fainéants affalés sur le dos. Le soleil jaune et blanc s'écrase sur leur peau. Comme des anges dilettants, ils font semblant d'être idiots. Voyous, discrets, et ça les rend beaux. Ils parlent aux filles en criant, ils ne connaissent pas les mots qui se cachent dans leur petit cœur de salaud. À la campagne, à la ville, les beaux quartiers, les banlieues. C'est comme ça que pensent les garçons. Ils veulent ignorer les larmes qu'on voit dans leurs grands yeux. C'est comme ça que pensent les garçons. Ce sont des pauvres endeuillés quand ils tombent amoureux. C'est comme ça que pensent les garçons. Un jour ils meurent dans l'oubli, leurs enfants après eux. C'est comme ça que finissent les garçons. Quand un désir fou brûlant ou l'envie d'un sanglot les étreint violemment, partent en lambeaux. Un amour dévorant, troublant, cruel et beau. Comme le regard d'un serpent dans celui d'un oiseau. Les anges dilettants partent toujours trop tôt. Ils aiment la vitesse, l'argent, les flingues, les motos. Puis septembre arrivant, ils se brisent les os. Ils se fracassent au volant de leur GTO. À la campagne, à la ville, les beaux quartiers, les banlieues. C'est comme ça que pensent les garçons. Ils veulent ignorer les larmes qu'on voit dans leurs grands yeux. C'est comme ça que pensent les garçons. Ce sont des pauvres endeuillés quand ils tombent amoureux. C'est comme ça que pensent les garçons.
On va déguster.
Trois ingrédients. Et des décennies de succès pour 5,50€ seulement.
Allez, les jambons beurre.
Mais le jambon beurre pourrait bien être détrôné. Et la recette du succès, désormais, est bien plus élaborée.
On s'est spécialisé dans le sandwich cuisiné. Et notre produit phare, c'est le pastrami. Avec les doigts ou avec les couverts, vous faites comme vous voulez.
C'est quand même des sandwichs assez complets, il y a plein de choses dedans. C'est pas les sandwichs basiques, jambon beurre.
Depuis 2019, les Français mangent en moyenne 10% de sandwichs en plus chaque année.
Un extrait du journal télévisé de TF1 du 31 janvier 2024, c'est tout récent. Ce fameux jambon beurre, on le trouve sur le zinc des bistrots, mais aussi dans tous les cafés, les boulangeries et même en supermarché, il reste vraiment indétrônable. En 2022, il s'en est vendu en France, figurez-vous, 830 millions, soit 2,2 millions de jambon beurre par jour. C'est près de la moitié des sandwichs consommés dans l'Hexagone. Même si, attention, le jambon beurre a été détrôné en 2016 par... Il a été détrôné par un sandwich chaud américain.
Le burger.
Ouais, le burger. Irman Abdoulhakim, le jambon beurre, est-ce qu'il a encore de l'avenir?
Je pense qu'il a encore de l'avenir si on le prépare de la bonne manière. Et aujourd'hui, effectivement, on a de plus en plus de mal à trouver les classiques des sandwichs habituels faits avec de bons ingrédients. Alors certaines fois, par manque de temps, qu'ont les établissements. Et aussi parce qu'il n'y a pas énormément à gagner sur un jambon beurre. Et on a vu donc apparaître différentes sortes de sandwichs, mais surtout dans différents types d'établissements. Là où le jambon beurre, on pouvait le trouver dans les bistrots et dans les boulangeries, aujourd'hui, par exemple, les bistrots, on le remarque, proposent des sandwichs en dehors des heures de service. Donc pas aux heures de manger. C'est quand même assez étrange. Et tout ça pour pouvoir privilégier effectivement des plats. Et effectivement, on retrouve de moins en moins de produits faits maison dans ce genre de sandwich.
Et oui, ça c'est quand même le problème. Et notamment... la boulangerie, puisque le pain baguette accueille d'autres garnitures que le jambon et le beurre, notamment dans ces boulangeries où ce pain baguette est fabriqué. C'est donc en toute logique que d'excellentes boulangeries proposent des jambons beurre. Mais là aussi, il y a des solutions de facilité qui ne satisfont pas forcément les gourmets.
Absolument. En fait, beaucoup de produits sont utilisés, sont transformés, donc ce qui apporte un gain de temps dans la fabrication des sandwichs. En revanche, malheureusement, le sandwich ultime, c'est quand même le sandwich fait minute. On adore voir une personne en face le faire, on le prend, le pain s'accroustille. Donc on a quand même quelque chose d'assez étrange entre l'endroit où on trouve les meilleures baguettes, mais on va trouver des sandwichs qui ne sont pas faits minute. Donc c'est assez étrange d'aller dans une boulangerie justement pour avoir ce type de sandwich et ressortir avec un sandwich au final sans bénéficier de leur savoir-faire qu'est la baguette.
Non seulement il y a des sandwichs un peu raplapla qui sont pas toujours très beaux à l'œil, mais en plus avec des garnitures un peu faciles. On va prendre l'exemple d'un sandwich emblématique. C'est peut-être bien pour vous,
absolument,
Irman, une madeleine d'enfance. Ça, vous allez replonger tout d'un coup dans vos années 80.
C'est ça.
Quand
c'est
vous alliez à la boulangerie acheter un
poulet crudité.
On y est. Le poulet. Non, mais attendez, le poulet crudité, magnifique. Belle invention française en plus.
Belle invention française. C'est quand même quelque chose d'assez complet. Et surtout, moi, je trouvais que c'était au-delà du sandwich. C'était une nouvelle manière de se nourrir et de consommer, c'est complet. Et le poulet, c'est très bon. On adore tous le poulet mayonnaise. Lorsque c'est fait maison, il n'y a rien de plus beau. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, je retrouvais de moins en moins de boulangeries qui le proposaient. Alors, moi, j'adore marcher en plus, donc j'ai aucun souci à part pour Paris et d'autres villes. À chaque fois que je vais dans une ville, je regarde ce qu'il y a dans les boulangeries. Et malheureusement, je retrouve ces tranches de poulet industrielles que je ne connais que trop bien. Et donc là, je me dis, aïe, ils ont encore frappé. Comment est-ce qu'on peut faire ?
Parce qu'il ressemblait à quoi, Irman, le poulet crudité de votre adolescence ?
Le poulet crudité de mon adolescence, alors c'est quand même un poulet crudité avec un vrai blanc de poulet, souvent qu'on retrouve effiloché. On voit des tranches et des morceaux de poulet irréguliers, et c'est ça qu'on a du mal à trouver aujourd'hui. Donc je me suis retourné à un moment dans les bistrots à voir s'il y avait des rôtisseries, mais eux ne voulaient pas proposer de sandwich. Je me souviens, en revanche, au mois d'août, ils sont un peu plus cléments parce qu'il y a un peu moins de monde dans les bistrots. Donc si on demande gentiment, on peut avoir un poulet crudité, fait minute du coup, mais ça devient une aventure.
Mmh. Originellement, en fait, le poulet crudité, c'était donc un demi-pain baguette taillé en deux avec un vrai poulet issu en fait d'un poulet rôti. On avait une chair de poulet effilochée, on le voit d'ailleurs assez dégradé de couleur, effectivement assez tranche, irrégulière. On effilochait véritablement le poulet, on le liait avec une mayonnaise, on y ajoutait les crudités de saison. Alors c'était la tranche de tomate, ça pouvait être évidemment des feuilles de laitue, parfois même des carottes râpées. Hein.
Absolument. Après, à savoir que moi qui aime bien les légumes de saison, je ne suis pas très regardant sur un poulet crudité avec des tomates en hiver. Je ne devrais pas l'être, mais il m'arrive pouvoir...
C'est vrai que ta tranche de tomate, elle apporte quelque chose.
Elle apporte quand même quelque chose. En revanche, ce gain de temps, qu'est-ce qu'il raconte ? C'est qu'en ayant des produits, on arrive à se passer d'une personne en moins pour faire les sandwichs le matin. Parce qu'on a une étape en moins dans la fabrication du sandwich. Et c'est là un peu le fléau, entre guillemets, que j'ai envie de dire, qui nous frappe. Et d'ailleurs, le fait maison, aujourd'hui, on le scrute un peu partout. Au-delà du sandwich, il y a plein de domaines, en fait, qui aujourd'hui ont cette facilité à acheter déjà des produits déjà préparés, déjà faits.
Parce que soyons clairs, de nombreux artisans ne le sont plus vraiment en se tournant vers le poulet prédécoupé en barquette. On ose à peine imaginer d'ailleurs, pardon, hein, mais l'origine du poulet, qui est souvent du poulet de batterie, au premier prix, avec des filets effectivement prédécoupés. Parfois même, on a cette fausse coloration un peu caramélisée pour donner l'illusion effectivement d'une cuisson au grill. Mais tout ça est un peu fake.
Tout ça est un peu fake et Il y a un danger là-dedans, c'est que il y a très peu de différence entre un sandwich acheté en boulangerie et un sandwich qu'on achète en grande surface. Donc on ne sait plus où se retourner.
Absolument. Vos bonnes adresses de boulanger à Paris, il y en a quelques-unes, parce que vous arpentez la capitale. Absolument. À la recherche des meilleurs sandwichs.
Alors moi j'adore aller chez Maison Collet, qui est rue Montorgueil. Eux font encore un très bon poulet crudité. Il y a également Mamiche. Excellent produit.
Et oui, alors ça, Mamiche, on parle évidemment de cette aventure de ces jeunes femmes qui ont monté une première adresse rue Condorcet dans le 9e arrondissement de Paris, et puis ensuite ça fait des petits.
Exactement. Et il y a une autre boulangerie qui est boulevard Beaumarchais, qui s'appelle Dupin. En revanche, leurs produits sont incroyables, mais ne proposent pas de poulet crudité comme dans les règles.
Donc là, vous lancez un appel.
Exactement. Donc leur poulet est excellent, mais souvent ils rajoutent par exemple des champignons, une crème. C'est excellent, mais ça n'est pas un poulet crudité.
On veut le retour du vrai poulet crudité avec un vrai poulet rôti à la maison, avec une mayonnaise maison, des crudités de saison. D'ailleurs, auditeurs et auditrices derrière votre poste de radio, si vous avez de bonnes adresses à nous livrer, on est au taquet pour les partager. Aujourd'hui, nous sommes en direct, Irman.
Exactement. Et pour terminer sur ce poulet crudité, j'avais eu la chance d'avoir un bistrot qui s'appelait la Brasserie Martin, dans le 11e.
Oui.
Et j'avais été les voir, et étant donné qu'ils avaient une rôtisserie, et j'aurais dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez faire un poulet crudité ? Je suis quand même assez insistant, donc je suis revenu plusieurs semaines, et au bout d'un mois, ils m'ont dit, on est d'accord on est d'accord de vous en faire un, uniquement le midi, et pas les week-ends. Donc je suis revenu tous les midis là-bas pour pouvoir le déguster.
Disons-le aussi, vous avez même entamé quelques collabs avec de belles maisons.
Absolument. En fait, l'idée, c'est vraiment ce qu'on ne retrouve pas ailleurs, j'essaie de, un peu, de, pas de forcer la main, mais de gentiment proposer, en restant longtemps dans les établissements, des sandwichs qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc ce fameux poulet crudité qu'on avait à la Brasserie Martin, ou encore chez Merci, où on proposait des sandwichs très simples, mais avec d'excellents produits. Et là, notamment, c'était la maison Petrosian qui avait accepté de nous donner des produits et de nous les faire payer moins cher, de manière à ce que ces produits puissent être disponibles au plus grand nombre. Parce que c'est aussi ça l'intérêt, c'est de pouvoir le faire goûter au plus grand nombre. C'est, l'idée n'est pas non plus d'avoir des sortes de projets un peu niches, et surtout de faire redécouvrir les vraies saveurs, parce qu'on les oublie à force.
Clara Vucher, et non Vucher, attention, vous êtes autrice de La Mie Prodigieuse, 50 sandwichs à savourer aux éditions Ulmer. C'est un merveilleux petit bouquin avec de très très belles idées pour concocter des sandwichs très créatifs avec des pains variés et des garnitures majoritairement végétales. C'est justement votre passion du sandwich, elle est née d'une frustration, même d'un désamour que vous entreteniez avec le sandwich.
C'est vrai, tout à fait, j'ai jamais été une grande consommatrice de sandwichs. Et parce que je trouvais pas de sandwich à mon goût, parce que je trouvais qu'ils étaient souvent déjà dans des pains pas très variés, souvent du pain baguette ou blanc et parfois pas très bonne, tout comme les produits qu'on pouvait retrouver dedans, comme disait Herman. Et à mon goût aussi, souvent un peu gras, très dans la sauce, dans le fromage et pas assez dans le végétal. Et donc comme c'est pas ce qui me convient et ce que je recherche, j'avais vraiment envie d'inverser ça et de donner une place super importante aux végétales et aux légumes dans le sandwich.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez lancé votre aventure dans le sandwich? Et ça se passe notamment du côté de Toulouse, la Ville Rose?
Ben, tout simplement, c'était une bonne rencontre, une amie qui voulait changer d'activité, qui voulait faire du sandwich, et je me suis dit, ben, je vais t'aider à faire des sandwichs. Et donc, je me suis un peu incrustée dans son projet, on va pas se mentir. Pour imposer un peu mon idée et ma vision du sandwich, pour proposer aux gens des sandwichs avec des produits du coin, et qui soient nourrissants, et qui constituent un bon repas, et en même temps avec des saveurs originales et satisfaisantes.
Vous avez donc aidé votre amie à monter une sandwicherie gourmette, on pourrait la qualifier comme ça?
Oui, on peut le qualifier comme ça.
Son nom, puisqu'elle existe toujours?
Midi 37. Et donc une sandwicherie où on change, où on crée vraiment les recettes en fonction de ce qu'on nous propose. Mmh. Et où les recettes changent toutes les semaines, comme ça les gens peuvent vraiment venir très souvent et toujours manger quelque chose de différent. Et voilà, toujours trouver des petites surprises, des petites découvertes.
Votre slogan, attention, le sandwich cuisiné, un grand pas vers la liberté. Alors ça paraît un peu potache comme ça, mais il est vrai que le sandwich est véritablement devenu une espèce de page blanche que l'on réécrit à l'envi avec une créativité qui finalement se décline à l'infini.
Voilà, c'est ça. En fait, la seule contrainte, c'est que ça doit rentrer dans le pain. Mm-hmm. Et après, ben, y a un peu champ libre, quoi. Donc ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il faut juste compter sur les basiques. Donc il faut une sauce si on veut pas que ça soit sec. Il faut ensuite une petite garniture végétale, un petit condiment. Donc c'est là souvent que j'amène le côté animal avec des laitages, des fromages qui viennent vraiment condimenter tout ce qu'il y a, tout le légume principal du sandwich.
Donc la protéine animale n'est pas le rôle titre, hein, n'a pas le rôle titre dans vos sandwichs.
Pas du tout.
C'est un condiment.
Voilà, ça vient condimenter,
ou un accessoire.
Ça vient un peu enrichir pour le côté gourmand, mais c'est pas du tout l'élément principal, quoi. Comme ça, quand on finit son sandwich, on a l'impression d'avoir bien mangé. Et qu'on va bien digérer aussi derrière.
Voilà. Vous suivez évidemment les saisons.
Évidemment.
Et vous avez en particulier suivi ce joli printemps pour nous concocter une première recette de sandwich que vous nous expliquez.
Ok, alors la première, c'est pas celle-là, Justine.
Je prends l'autre.
C'est la focaccia.
Parce qu'on a de belles assiettes sous nos micros. Avec
deux sandwichs.
Des sandwichs à étage.
Voilà, un qui est plus frais que l'autre, donc qu'on peut manger un peu plus comme le petit apéritif des deux sandwichs. Mm-hmm. Donc j'ai préparé une petite focaccia qu'on retrouve dans le livre, qu'un ami que j'ai rencontré chez Mamiche, comme parlait Herman, qui était boulanger là-bas et qui m'a passé une recette de focaccia.
On va le citer, on peut même dire qu'il s'appelle Romain.
Il s'appelle Romain.
Il fait une très belle focaccia maison. Hein, voilà. La focaccia, attention, parce qu'on a quand même Alessandra Pierini, qui de surcroît est génoise.
Quand j'ai découvert Gênes ça,
Gênes étant en Italie, en Ligurie, le berceau de la focaccia.
Absolument, la focaccia vraiment onctueuse à l'huile d'olive, mais celle-là, elle est vraiment très très bonne. On sent un petit peu l'huile, elle est moelleuse pour le sandwich, excellent.
Et pour ceux que ça intéresse, la recette de focaccia de Romain, qui figure d'ailleurs sur votre livre,
chez Ulmer,
Clara Vucher. On la retrouve également sur franceinter.fr, à la page, on va déguster. Oui, car la focaccia, au départ, c'est un pain de rue, généreusement imbibé d'huile d'olive, et c'est devenu, en le coupant dans l'épaisseur, la base d'un sandwich. Hein. Ça se fait d'ailleurs aussi beaucoup en Italie.
Énormément en Italie, ah oui, tout à fait.
Et donc, je l'ai garnie, cette focaccia, qui est donc un pain assez riche. Je me suis dit, je vais plutôt aller sur la fraîcheur, justement, et pas rajouter du gras par la garniture. Et donc, j'ai fait une petite salade de fenouil, bien assaisonnée, avec du chèvre frais, et en base de sauce, j'ai fait une tapenade aux dattes. Parce que, bon, olive, fenouil, ça marche. Moi, il faut savoir que je suis de Provence, donc voilà. Toujours l'huile d'olive, le fenouil, toutes les petites épices provençales.
Donc la petite sauce, c'est des dattes.
En fait, c'est comme une tapenade, donc il y a vraiment une grosse base d'olive noire, à laquelle j'ai rajouté quelques dattes, un peu de tomates séchées, un peu de tahini, parce que je trouve ça magique, le tahini, j'en mets un peu partout.
On parle de la crème de sésame, d'origine levantine.
Voilà, qui amène un petit côté, une petite amertume et un petit côté toasté aussi dans la sauce, et qui, je trouve, va bien avec le petit côté sucré de la datte. Et des pignons grillés pour...
Alors, ça vous plaît ou pas ?
Le côté chic.
Ça marche très très bien, c'est vraiment délicieux.
C'est délicieux et en plus c'est assez intéressant parce que là où dans les sandwichs on a surtout une sorte de quête des meilleurs produits, là on a passé cette quête des meilleurs produits et on voit une expertise de ces produits pour pouvoir créer des nouvelles saveurs. Alors là, on est à next level.
Mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, dans les 5 conseils que vous prodiguez, pages 12 et 13 de votre petit livre, Clara Buchère, il y a ne pas chercher à en mettre trop. Ça, c'est souvent le risque. Hein, de... Autant dans certaines propositions, on sent qu'on a des garnitures un peu maigrelettes et on a la sensation d'avoir trop de pain en bouche. Mais l'inverse n'est pas bon non plus. Hein. Pas trop de garniture par rapport au pain.
Il faut que ça soit quand même mangeable facilement sans s'en mettre partout sur les genoux.
Choisir des ingrédients de qualité, ça, c'est fait. Jouer avec les condiments, c'est ça qui est important pour notamment atteindre une espèce d'équilibre entre l'amertume, le sucre, l'acidité, et puis avoir quand même cette liaison qui permet de faire le trait d'union entre tous les éléments.
Voilà, et c'est aussi une façon, effectivement, de faire le trait d'union. Et comme le légume, qui est la pièce principale, est traité de façon assez simple et directe, on va dire, c'est vraiment le condiment qui va ajouter une strate de complexité.
Et vous me disiez en préparant cette émission que chaque bouchée d'un sandwich que vous préparez doit être parfaite, c'est-à-dire
bah, la bouchée parfaite, c'est le principe, quand on a une assiette, c'est de mettre un peu de chaque élément sur sa fourchette pour avoir vraiment le goût global de tous les éléments ensemble, qui est quand même pour moi ce qu'a voulu faire le chef ou le cuisinier qui propose son assiette, c'est qu'il a pensé tous les goûts ensemble. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais les sandwichs, c'est que je pense à quand on mange tout, il faut que le goût soit supérieur à juste la somme des éléments, en fait.
Dans la sandwicherie toulousaine dont vous vous occupez désormais, enfin, vous êtes consultante désormais.
Voilà, je traîne par là.
Vous n'êtes plus forcément à la manœuvre, mais vous constatez effectivement un appétit nouveau pour ces sandwichs créatifs ?
Ben, je sens que notre clientèle est vraiment une clientèle... Il y a des gens qui viennent découvrir, mais on a vraiment une clientèle très régulière qui viennent parce que justement, ils aiment, ils sont toujours surpris et à chaque fois, ils nous font des retours. Ah, le sandwich de la dernière fois, c'était vraiment super, j'avais pas pensé à mettre ça avec ça. Et ça, c'est vraiment hyper important et hyper satisfaisant aussi d'avoir ce retour.
Ça peut être en plus une proposition complète nutritionnellement, voire très intéressante, parce que souvent, le sandwich est considéré un peu comme... un acteur de la malbouffe, on va dire.
Voilà. Oui, et ça a souvent été le parent pauvre de la gastronomie. Alors que, avec la description que tu viens de faire, Clara Buchère, de ce que tu fais en tout cas, on se rend compte que ça nécessite non seulement un savoir-faire, mais surtout le sandwich, on a souvent dit, c'est quelque chose qu'on peut faire chez soi. Eh bien non, tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde ne peut pas associer ses saveurs pour obtenir ce que tu obtiens avec toute cette réflexion qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que je pense qu'il a sa place dans tous les grands restos, ou surtout dans les critiques et dans la discussion aujourd'hui qu'il y a sur la gastronomie.
On va déguster sur France Inter.
Justine Knapp, notre chroniqueuse vin, vous vous intéressez aujourd'hui à des domaines viticoles qui misent sur la diversité et la pluralité des activités agricoles.
Certains domaines ont effectivement tout pour faire le casse-croûte sur place.
Ouais.
Donc, ils cultivent du raisin pour le vin qui accompagne le sandwich, mais aussi des céréales pour le pain, des légumineuses du porc ou du bœuf pour les protéines, des olives ou des noix pour un trait d'huile, des légumes, de la moutarde. On parle de domaines en polyculture ou polyculture-élevage. À l'inverse, en France, notre agriculture actuelle, elle s'est spécialisée à outrance après la Seconde Guerre mondiale. La production de chaque ingrédient, eh bien, elle s'est progressivement répartie par zone. Les grandes cultures de blé dans la Beauce, de carottes dans les Landes, l'élevage à l'ouest, etc. Donc ça donne un sandwich à grande échelle, hein, immense, qu'on a du mal à tenir à deux mains. La diversité du paysage, eh bien, c'est un outil quand on travaille sans chimie de synthèse. Les parasites et les maladies se propagent moins quand il y a de la diversité végétale et animale. Et puis aussi, les différentes cultures, elles peuvent fonctionner ensemble, en association. Donc par exemple, le troupeau, il est nourri avec les fourrages du domaine. Il mange les rebuts d'une autre culture, il nourrit les sols au passage, hein, le fumier c'est un substitut des engrais de synthèse. Et tout ça dans un cycle fermé, plus autonome, plus stable. Et cet écosystème, eh ben, c'est l'un des principes de la biodynamie qu'on résume souvent trop vite à des détails ésotériques et on passe à côté de ce fonctionnement paysan. Alors, c'est une belle histoire hein, qu'on aime bien entendre, avoir des vignes, un troupeau et d'autres ateliers agricoles. Mais c'est aussi une énorme charge de travail, beaucoup de bras et surtout plusieurs métiers. Donc, certains envisagent ce fonctionnement, non pas uniquement à l'échelle du domaine, mais aussi à l'échelle du territoire local. Donc vignes, élevages, céréales, chacun peaufine son savoir-faire et on échange entre voisins, voisines. Voilà pour la théorie, maintenant cas pratique.
Cas pratique, puisque vous avez prévu, Justine, deux vins pour accompagner notre casse-croûte du jour.
Je me suis rendue dans le Massif Central, donc dans la Loire volcanique, hein, du nom du groupement des vignerons et vigneronnes. Un vignoble de moyenne montagne, avec une tradition de polyculture élevage hein, qui s'est rarifiée. Mais pour autant, le paysage reste diversifié, on n'a pas une mer de vignes à perte de vue. Le cépage en commun, c'est le gamay, frais avec l'altitude, subtil et minéral avec les granites et les sols volcaniques. À deviner, on lance la devinette, deux gamay pour manger avec le casse-croûte, un classique et un nouveau. Donc le premier, le classique, enfin pour moi. Vu sur les monts du Lyonnais et du Beaujolais, domaine en biodynamie de la côte rouennaise, cépage gamay Saint-Romain emblématique, troupeau de vaches rustiques des Bazadaises, nourri aux mares de raisins, au foin et céréales maison, abattoir à 15 minutes, viande persillée au restaurant, vin facile à dénicher, rapport qualité-prix irrésistible. Bon, alors c'est dur, hein. Je vous pose la question surtout pour donner du rythme à la chronique. Mais...
Ben, certains domaines des potiers.
Oui, domaine des potiers. Romain Père, la cuvée, c'est la cuvée domaine, 14 euros. Finement taillé, c'est une évidence gustative, on est saisi par la saveur sans même y penser. Donc c'est un incontournable. Et en deux, à deviner plus difficile, on cherche un vignoble perché. Abandonné après le phylloxéra.
Là, c'est le vin qu'on a dans nos verres. Hein.
C'est le vin qu'on a dans nos verres, exactement. Un vignoble qui repousse à peine. Sa caractéristique, c'est les paillas, des terrasses viticoles qui sont tenues par des murs en pierre sèche volcanique. Une partie a été remise en culture il y a 20 ans et on perçoit toujours certains murs noirs dans la forêt qui a gagné du terrain. Où est-ce qu'on se trouve ?
C'est facile, hein.
Un département qui a donné son nom au fromage salin local, sud de l'Auvergne.
Ce sera pas un petit Cantal.
À l'entrée du Cantal à Melon-Pise et Massillac. Donc j'ai apporté le vin de Chloé Chassant-Itier, installé il y a 2 ans et qui a rejoint les 3 vignerons sur place. Et puis depuis ces vignes, on voit en bas les pommiers, les légumes et les céréales de son mari. Un peu plus loin, elle-même a 2 hectares de maraîchage, 25 hectares de blé et de seigle. Les deux voudraient troquer leur paille contre du fumier, hein, avis aux élevages du coin. La cuvée, c'est donc du gamay, avec un petit peu de pinot noir, donc mûr, bien épicé, d'une belle présence et en même temps très léger. Voilà, le vin remplit sa fonction, il
c'est
désaltère,
légère,
il répond à la soif.
Avec une légère amertume végétale, vous en pensez quoi, Alessandra, vous qui êtes spécialiste aussi de vin?
Dans le verre, juste quand on regarde, on dirait vraiment du jus de cerise, oui. Parce qu'il y a cette pulpe assez importante
un
qui donne
trouble,
tout de suite envie... Un peu épais, hein, donc on le sent bien en bouche. Après, une jolie amertume, mais facile, très très facile, avec un petit peu d'acidité, vraiment délicieux.
C'est vraiment
très
bon.
Parfumé.
Alors ça coûte 14 euros. Et une dernière chose, un autre avantage de la polyculture qu'on n'a pas abordé. Cette semaine, le gel a mordu au sang le vignoble, hein, les parcelles de vignes de Chloé y compris. Donc on le rappelle, les bourgeons sortent anormalement tôt désormais avec la hausse des températures, donc ils se font rafler par le gel de printemps. Pour elle, pour Chloé, les légumes et les céréales en plus du vin, bah voilà, ça lui permet de ne pas complètement couler.
La polyculture, c'est aussi une façon effectivement de jouer un peu les vases communicants et de ne pas miser sur une seule production, mais de ne pas mettre en fait ses œufs dans le même panier finalement.
Exactement,
c'est ça que ça veut dire. Vive la polyculture et accessoirement, c'est bien meilleur pour notre environnement. Et bravo pour ces deux vins, absolument délicieux. Toutes les références, Justine, à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Dans un instant, attention, Irman, on s'intéresse à un autre sandwich que vous adorez. Si je vous dis le plus aristo des sandwichs qui mène une vie de palace mais qui décide quand même de redescendre un peu dans la rue.
Le club sandwich.
Bravo. Bodyguard, extrait du nouvel album de
Beyoncé.
Ah, vous l'avez tous, notre menu dominical, la folie sandwich, avec Irman Abdoulhakim et Clara Bucher.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Je m'appelle Moïse Fez, je suis chef et fondateur du Homer Food Group. Et là, on est chez Homer Lobster, juste à côté de chez Jeannette aussi, sa petite sœur.
Ton club sandwich, qui soit à la dinde ou ici, c'est devenu à Paris un phénomène. Comment tu l'expliques ?
Ben, c'est des bons produits. Aussi, je me suis vite rendu compte, quand j'ai lancé le club Aladdin d'abord chez Jeannette, que on peut pas manger trop de club sandwich si on va pas dans un palace et si on paye pas 40 ou 50 euros pour un club. Avant de lancer mon club saumon, j'ai été dans un palace, sans citer lequel, pour un peu prendre des idées pour le mien. Et ils m'ont dit non, je suis désolé, on peut pas vous en faire. Maintenant, on a qu'un club d'Inde à la carte. J'ai dit mais vous avez une assiette de saumon fumé pour avoir un club saumon. Ils m'ont fait attendre 45 minutes pour me dire non. À la fin, je suis parti. Je me suis dit, je l'aurais imaginé comme ça. Et c'est vraiment comme ça que l'histoire de mes clubs se sont faits.
Tu montres un peu comment tu t'y prends ?
Allez, on attaque un club. Bon, alors en gros, on prend nos tranches de pain brioché qu'on va beurrer. On en a trois parce qu'un club, c'est quand même sur deux étages. Donc, on va avoir deux tranches collées les unes avec les autres et une tranche au milieu qu'on fait toaster des deux côtés pour qu'elle soit bien croustillante. Sinon, à l'intérieur, ça va mouiller. Alors, je vais poser la première tranche, la base du club sandwich. Je vais venir étaler comme une mayonnaise Savora, un peu citronnée. On va venir mettre quatre tranches de tomates, donc les unes sur les autres. Par-dessus, je vais venir mettre un tiers d'avocat qui a été slicé finement. Fleurs de sel, poivre moulin, de la ciboulette, un peu de cébette, de l'huile d'olive. Donc là, on a notre base. Je vais prendre maintenant le pain qui a été toasté des deux côtés.
Donc ça, c'est la tranche du milieu.
La tranche du milieu. Par-dessus, je vais venir étaler le saumon fumé, en fait, qu'on a juste tartarisé pour qu'il puisse y en avoir sur toute la tranche et qu'on ne se retrouve pas avec un gros morceau de saumon dans la bouche. Ensuite, par-dessus, je vais mettre zeste de citron vert, du jus de citron vert, hop, de l'huile d'olive, de la ciboulette, de la cébette. Là, je vais venir disposer par-dessus la première couche, avec les tomates et l'avocat. Je vais aplatir un petit peu. Ensuite, dans un bol, j'ai mis un mélange d'herbes, persil, cerfeuil, ciboulette, oignon rouge, petit peu d'iceberg et du poivre que j'ai assaisonné avec une vinaigrette, huile d'olive, citron. Et je vais venir disposer par-dessus
cette petite salade croquante.
Sur l'autre tranche, je viens remettre de la sauce Savora et je viens appuyer sur le dessus. Et ensuite, je viens couper en plein milieu. Et le but, c'est que tu puisses voir les différents étages du club sandwich.
Ah là, là, on a toutes les strates.
Voilà un club sandwich au saumon fumé.
Merci.
Par contre, tu vas pas partir sans le goûter. Je l'ai fait pour toi.
Eh ben, c'est parti, je vais le manger.
Avec plaisir.
Je l'ai goûté, ce club sandwich au saumon fumé de Moïse Fès chez Homer. Et c'était un grand moment. Alors, je rappelle que Moïse Fès s'est fait connaître avec le Lobster Roll, ce fameux sandwich au homard chez Homer. Et il ressuscite depuis quelques mois le club sandwich version saumon chez Homer et à la dinde fumée dans son autre enseigne Jeannette. Et en tournant ce son, cher Irman, il me disait, mais je comprends pas, la référence de la street food à Paris n'est toujours pas passée. Déguster mon club sandwich, que s'est-il passé?
Alors, c'est vrai que Moïse, qu'on voit souvent, je le croise souvent, on parle énormément de sandwich et des fois on en oublie même de manger. Et en revanche, il m'arrive de tester des recettes qu'il n'a pas à la carte, parce que forcément, nous, quand on parle sandwich, on va dans tout horizon. Et il me dit, est-ce que tu as déjà testé ça? On en a même fait un avec des chips dedans.
Ah oui, carrément.
Exactement. Donc c'est peut-être pour ça qu'on s'est un peu écarté, qu'on a oublié de goûter l'essentiel. Peut-être même que je suis venu le goûter et qu'on est arrivé sur autre chose.
C'est ça. Que pensez-vous, Irman, de ce retour du club sandwich? Alors non pas dans son milieu naturel, parce que le club sandwich, même la façon dont il est né en novembre 1889 aux États-Unis, la première occurrence était dans le journal The Evening World, il a toujours eu cette condition un peu aristocratique. Et ensuite, c'est devenu véritablement un totem du room service de palace.
Absolument, c'est vrai que c'est un peu le snacking de luxe, ce qu'on peut avoir, le sandwich par excellence qu'on pourrait avoir. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que le club sandwich, c'est aussi une porte d'entrée vers les grandes tables. Moi, je me souviens que ça coûte quand même assez cher de manger un club sandwich dans un palace. Et il fut un temps, moi, je me privais un peu la semaine et je me disais, je vais aller manger un club sandwich toutes les deux semaines. Mais pour quelle raison? Parce que c'était un peu aussi toucher cet univers de ces grands noms, de ces noms de Ducasse, Humbert, Fauchon. Et étant donné que ces grandes tables un peu étoilées étaient un peu inaccessibles, je me disais, en allant dans un palace et en mangeant un club sandwich, j'arrivais à exister un peu dans cet univers et ça faisait un peu mon initiation dans ce monde-là. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Et donc, une fois qu'il est sorti des palaces, on retrouve un peu ces codes-là parce que Moïse, par exemple, le maîtrise totalement.
Et oui,
c'est hyper bon.
Il le fait de très très belle manière, avec un pain maison. Vous avez vu d'ailleurs tout le travail, à la fois d'architecture, mais également d'équilibre, de condimentation.
Exactement. Et Moïse, lui, vient du deli. Lui vient quand même de cette culture assez américaine du sandwich. C'est d'ailleurs pour ça que son club sandwich est coupé à la verticale et qu'on a deux morceaux rectangulaires et non triangulaires comme on peut le retrouver dans les palaces. Mm-hmm. Et dans certains palaces, d'ailleurs, lorsqu'on a ces trois étages, normalement, on doit le manger. Enfin, on ne doit pas. Mais il est préférable de le manger pas en croquant sur l'hypoténuse. Non, alors pour ceux qui ont regardé un peu les cours de maths, non, ça ne sera pas donc ce long côté du triangle.
La géométrie du sandwich.
Exactement, mais c'est le prendre à la verticale pour le goûter en fait sur les côtés. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'au Shangri-La, ils ont choisi...
Vous évoquez un palace parisien.
Un palace parisien, ils ont choisi, eux, de le séparer en deux, de manière à avoir des petits morceaux pour le prendre. Donc on peut même le partager. Mais tous les sandwichs de palace ne se valent pas. J'en ai goûté un, par exemple, aux sources de Caudalie, qui est incroyable.
Région bordelaise.
Et j'ai également eu des très bonnes expériences, notamment à la Bastide de Gordes, qui se retrouve dans l'Luberon, où là, ils n'avaient pas de club sandwich au homard à la carte. Je suis allé les voir en leur disant, j'ai vu que vous aviez du homard à la carte, vous pourriez faire un club sandwich. Ils ont refait une recette, et c'était extraordinaire. Et ça, je pense aussi que c'est ce qui fait plaisir quand on va dans certains palaces, de pouvoir le goûter.
Vous constatez que le club sandwich, encore une fois, sort de sa zone de confort pour redescendre un peu dans la rue et devenir un peu, de devenir un peu cette street food sale qu'on aime bien de temps en temps ?
Absolument. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette donc, culture de sandwich de palace, on parlait tout à l'heure du lobster roll, par exemple, le Coffee Parisien, qui se retrouve à Saint-Germain, a de très bons clubs sandwich. Mm-hmm. Et lorsqu'on parlait un peu de ce côté, on adore reprendre les codes du luxe et s'encanailler. C'est un peu ce côté un peu hip-hop qu'on adore retrouver dans ces sandwichs au homard, le lobster roll qu'on a à l'extérieur des palaces. Il faut que ça déborde. C'est un peu comme quand on voit un rappeur avec une chaîne en or, on se dit, mais pourquoi en plus il a mis des dents en or ? Parce que c'est comme ça, il faut en faire plus. On sort le chauffeur de la limousine et on prend le volant, on reprend le contrôle. Et c'est ça qui est intéressant justement, avec ce, en se réappropriant ces codes du luxe et en mangeant ces lobster roll au comptoir.
Et encore une fois, il est vraiment très très bon chez Jeannette et chez Homer, les enseignes parisiennes de Moïse Sfez. Plein de réactions.
Absolument.
Sur notre mail et sur le bouton
Réagir. Une montagne de recettes et d'adresses de tous les côtés. Nous avons Anne, par exemple, de Marseille, nous recommande pain avec des sandwichs en pain extra avec betterave, bruccio corse, donc la brousse corse, des graines germées. Marie à Landerneau, on a la sandwicherie qui s'appelle le Gortozen, avec énormément de produits locaux. Colline, elle nous donne l'adresse de Le Four à Bois à Fismes. Pascal, à Clermont-Ferrand, donc la boulangerie d'Alexandre Da Silva et de Justine Arnaud, avec des produits bruts, des produits locaux, des produits bio. La boulangerie Pimpolette à Cherbourg, en Cotentin. Isabelle parle d'un sandwich au poulet chez Smith, traiteur alsacien, à la Gare de l'Est à Paris. Et il paraît qu'il y a aussi un excellent poulet crudité avec mayonnaise maison à Bordeaux, au Fournil de Belsier.
Et ben voilà, et puis on a aussi des adresses du côté de Nice, parce que, évidemment, Nice est le berceau d'un sandwich français emblématique, le pan bagna, qui signifie littéralement pain mouillé, mouillé par notamment l'eau des tomates en saison.
Absolument.
Ce fameux... Bah, en fait, on pourrait définir le pan bagna comme une salade niçoise entre deux tranches
entre
de pain.
Entre deux tranches de pain. Et là, nous avons Marc Amalric, nous parle de loup pélandron. On imagine ce que ça veut dire. Le pain bagna, donc, qui est boulevard Joseph Garnier à Nice. Également à Nice, il nous parle du banh mi de Teasing de Yumi Shop.
Le banh mi, c'est ce fameux sandwich d'origine vietnamienne. Hein.
Absolument. Et pour revenir sur ce que l'on disait sur le pain bagna, il y a aussi de très bonnes adresses, comme chez Tintin. À Nice, qui est
le kiosque chez Tintin, j'allais le dire, marché de la Libération.
Absolument, c'est une institution. Et également, il y a un peu sur la Côte d'Azur, on retrouve le Nautico à Cannes, qui a même ressorti un sandwich qui se rapproche du pain bagna, qui est le puccia, qui est un pain italien cuit au feu de bois. Et c'est excellent.
Et ben voilà, et puis il y a également un très bon pain bagna que vous avez dégusté, Clara Vucher.
Oui, à 7, à la boulangerie La Carioca.
Damien Larderet.
Tout à fait. Et il faut surtout aussi, quitte à y aller, prendre en dessert une part de fougasse d'aigues mortes à la fleur d'oranger.
Elle est absolument irrésistible.
J'y vais que pour ça parfois à 7.
Ah oui, là c'est vraiment une spécialité briochée à l'eau de fleur d'oranger, la spécialité d'aigues mortes. Et c'est prodigieux. La Carioca, juste
bien
à côté du Grand Canal, à 7 absolument, avec un garçon tout à fait engagé. Votre deuxième recette, Clara Vucher, elle est aussi de saison.
Eh oui, forcément. La deuxième recette, j'ai changé le pain, j'ai pris un pain de campagne. Donc ça se trouve très facilement en boulangerie. J'ai pris le mien chez Mamiche, évidemment. Et on peut le changer pour donner plus de caractère, déjà, en mettant du seigle, par exemple. Mais moi, j'ai voulu la jouer plus sécure, parce que la garniture est déjà assez, on va dire, corsée. Enfin, elle est fumée. Il y a de la betterave rôtie, il y a de la scamorza. Et ça va pour la fraîcheur avec un peu de salade de radis et un pesto de petits pois. Donc un pesto de petits pois que j'ai vraiment préparé comme un pesto classique, amandes, herbes, là j'ai mis de l'oseille en l'occurrence, et des petits pois que j'avais légèrement cuits avant pour les attendrir. Et voilà, bien mixé, sel, poivre, quelques feuilles d'oseille fraîches.
Là aussi il y a un jeu de texture, il y a le bon équilibre entre la garniture et le pain, ça se tient bien, avec ses doigts c'est vraiment, vraiment délicieux.
France Inter.
Bon appétit.
On passe la frontière évidemment pour aller en Italie, qui est peut-être bien l'un des pays les plus importants en termes de culture sandwich, Alessandra Pierini.
Et oui, les Italiens peuvent aussi renoncer à leur dose quotidienne de spaghetti à la tomate pour se régaler avec un bon sandwich ou encore mieux, un bon panino.
Panino,
oui,
hein.
On dit bien un panino au singulier et deux panini au pluriel. Donc, ce que vous, les Français, vous appelez un panini, très à la mode en France à partir des années 2000, vous avez cette espèce de semelle ovale de pain industriel blanc, luisant, farci avec de la fausse mozzarella dégoulinante, des tomates en toute saison, une bonne couche de pesto et immanquablement écrasé à la presse, pour estampiller d'un grillage cramé et rustique, comme si c'était un label.
Attention,
mes chers auditeurs, ça, en Italie, ça n'existe pas.
Et oui.
Chez nous, le terme panini englobe toute la catégorie des sandwichs. Donc, deux tranches de n'importe quelle sorte de pain, chaud ou froid, entre lesquelles on met tout ce que l'on veut. Un hamburger, c'est un panino. Un kebab, c'est un panino. Un pain bagnat, c'est un panino. Et bien sûr, messieurs, dames, un jambon beurre, c'est un panino. Savez-vous, François-Régis, qu'en Italie, il y a même un nom pour définir les mangeurs de panini ?
Eh oui.
Eh bien, ce sont les paninari. C'est un terme lancé pour la première fois par le quotidien Corriere della Sera en 1976 qui désignait les jeunes étudiants qui se réunissaient dans leur lieu de prédilection qui étaient les paninoteche, donc pour y manger des...
Panini.
Alors, je vois que vous suivez. Donc, celui des paninothèques, c'est un phénomène né à Milan qui se propagea dans toute l'Italie grâce aux médias qui encouragèrent ce mode de vie inspiré, bien sûr, de la culture américaine.
Et pourquoi mangeait-il alors des paninis et paninari?
Ces paninari, il les mangeait parce que, tout simplement, c'était à la mode. Il faut d'ailleurs imaginer un peu la série arrivée des États-Unis en vogue à l'époque, Les Jours Heureux, mais un peu plus à la sauce italienne, avec le langage et le style vestimentaire qui vont avec surtout pour les garçons, chaussures Timberland, doudoune Moncler bien sûr sans manches, petit pull Best Company, jeans Armani, lunettes Ray-Ban, sac à dos Invicta.
C'est la version italienne du minet du drugstore en
fait.
Hein.
Tout à fait. Alors, leur bonheur absolu, c'était quoi? C'était de s'amuser et de croquer à pleines dents dans de délicieux panini qui, d'une part, massacrent bien sûr la tradition italienne du repas traditionnel à table, mais d'autre part, n'ont pas peur d'utiliser aussi d'excellents produits du terroir et slow food. On n'a pas échappé malheureusement aux recettes souvent très élaborées, sophistiquées, qui se voulaient un peu tendance, avec des ingrédients exotiques, des sauces industrielles, du poisson en boîte, des conserves à l'huile et aussi quelques hamburgers, mais on a aussi dépoussiéré de nombreuses spécialités traditionnelles régionales comme le panino all'ampredotto de Florence, le panica meusa de Palerme, le panino romain avec la porchetta. Et si la tribu des paninari s'est éteinte en 1989, donc symboliquement avec le dernier numéro de la revue Il Paninaro paru en décembre de la même année, eh bien, messieurs, dames, le tramezzino, lui, il est encore là.
Et oui, tramezzino, ça c'est un super sandwich italien.
Ah oui, lui aussi, bien sûr, c'est un panino. Si vous avez déjà mangé dans un bar italien, vous avez dû certainement dû voir ces petits sandwichs triangulaires farcis avec toutes sortes de délices composés de deux tranches ou de plusieurs étages. Tout est permis avec le tramezzino. Et moi, je vous ai préparé dans les assiettes
Attention. Ma
recette préférée à deux étages avec thon, artichaut, œuf dur, mayonnaise, tomate, persil, mesclun, zeste de citron. Je vous laisse le déguster.
Alors, Yaman, Clara,
irrésistible. C'est excellent parce qu'on a vraiment le côté tout moelleux du pain qui en même temps est quand même un tout petit peu toasté. Et surtout, la fraîcheur des ingrédients, elle se dessine assez facilement. C'est ça qui est très agréable, quoi.
Yaman ?
Très moelleux et on adore avoir ce ton, cette texture-là et l'œuf. En même temps, c'est très consistant.
C'est très consistant, ça fait un repas tout seul.
Clara,
il faut juste agrémenter d'une salade.
C'est très bon, pardon, j'ai la bouche pleine.
Artichaut, œuf dur, mayonnaise, tomate, persil, mesclun, zeste de citron. On a l'impression, Alessandra, qu'il y a comme une espèce de parenté entre l'Italie et l'Angleterre, le berceau du fameux sandwich triangle à base de pain de mie.
Tout à fait, hein. c'est absolument à l'époque 1920 en fait que ce sandwich, ce club sandwich a été appelé panino grâce à Gabriele D'Annunzio qui a voulu donner ce nom puisque à l'époque le régime fasciste interdisait d'utiliser tous les mots étrangers.
D'ailleurs, Herman, le sandwich triangle, cette folie du sandwich triangle a évidemment envahi la France.
Elle a envahi là.
Et nos amis industriels, alors on va citer Donna et Sodebo, qui sont vraiment les deux leaders de ce sandwich industriel, l'ont bien compris. Hein.
Ils l'ont bien compris et surtout, eux, on sentit aussi qu'il y avait une place à prendre. Parce qu'ils avaient un produit que déjà... qui était assez, qui bénéficiait d'un certain attrait. On avait envie de l'avoir dans certaines conditions, et donc ils ont simplement se sont dit, on va essayer de monter en gamme dans nos produits. Et aujourd'hui, on le voit. Et là où on se le disait tout à l'heure, il y a de moins en moins de produits faits maison dans les sandwichs. Du coup, ils se sont parfaits dans ce paysage aujourd'hui du sandwich, où comme il n'y a pratiquement pas de fait maison. Bah, c'est ce qu'on trouve de plus commun dans ces sandwichs. Il a été lancé d'ailleurs c'est assez intéressant de voir que ce produit du Club Triangle vient de toute manière de la grande consommation. Il a été remis au goût du jour par Marks & Spencer dans les années 80, en 1980, où le premier Marks & Spencer a fait un test donc à Édimbourg avec ce sandwich pour voir comment il pouvait nourrir en fait les ouvriers à midi. Et fort de ce succès, il a été déployé partout.
Et on doit reconnaître que ces acteurs font d'ailleurs des efforts. Hein. Ils sont partis de très loin, il faut bien le dire. Et désormais, ils sont montés en gamme en termes de choix de produits, mais aussi d'emballage écologique. Bon, on va continuer à observer Donna, Sodebo. On conseille quand même de superbes sandwichs à faire à la maison, notamment en s'inspirant des très belles recettes de Clara Vucher, l'ami prodigieux, 50 sandwichs à savourer chez Ulmer. Merci beaucoup Clara d'être venue jusqu'à nous.
Avec plaisir, un grand merci. Invité.
Vous savez qu'on cultive et que l'on produit d'excellents thés dans notre pays ? Eh bien c'est ce que l'on va voir le week-end prochain avec notre spécialiste du thé, Lydia Gauthier. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.